pour aborder la vie de Nicolas de Flux, le mystère de Dieu à travers la vie de ce grand saint qui était connu dans toute l'Europe. C'était vraiment, il était reconnu partout, on venait de partout pour le visiter de son vivant. On amenait beaucoup d'enquêtes pour savoir s'il trichait ou pas. La renommée qu'il avait auparavant et la renommée rapide de son jeune miraculeux a fait de lui vraiment une personnalité très connue dans toute l'Europe où les princes venaient pour chercher conseil et tout ça. Pour aborder un petit peu cette question de Nicolas de Flux, il faut voir un petit peu le contexte dans lequel il a vécu et l'époque dans laquelle il a vécu, parce que on se rend compte que Nicolas de Flux est vraiment une réponse de Dieu non seulement à un besoin de la Suisse, mais un besoin de tout un temps. Nicolas de Flux est là juste après le grand schisme d'Occident, où il y avait trois papes à un moment donné, vous savez, on se tapait dessus, on ne sait plus qui était le pape, ça se chamaillait, il y avait Avignon, et puis juste avant la réforme, avant Luther, Zwingli, Calvin et tout ça, avant la déchirure du corps du Christ, à travers tout le scandale aussi qui a précédé cette réforme. Et donc Nicolas de Flux se situe là au milieu, comme un signe vraiment prophétique. Il se situe dans ce petit canton, demi-canton d'Obwald, qui était assez paisible par rapport aux autres, parce que les autres étaient assez violents. D'ailleurs, quand ils chassaient les baillis, on les trucidait violemment. Alors dit-on dans l'histoire qu'à Obwald, quand on chassait le bailli, on mettait les armes au fond du panier. Alors s'il résistait, là, on lui cassait la figure, mais autrement pas. S'il voulait partir gentiment, alors on le laissait partir sans qu'il ait reçu, comme ahuri, des coups de hache à travers la tête ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est quand même sympathique comme mœurs à l'époque. En même temps, cette Suisse primitive, qu'on a dit assez refermée, n'était pas si refermée que ça, parce qu'il y avait énormément, d'abord, les mercenaires qui sillonnaient l'Europe pour rencontrer d'autres personnes. Il y avait aussi tout un commerce qui se faisait à travers les pays de la Suisse centrale, entre le nord, le sud, Genève et tout. Et donc, il y avait vraiment tout un tissu de relations qui se faisait là. Et les gens étaient habituellement illettrés, mais avaient une culture assez large et connaissaient les grands événements qui se passaient dans l'Europe, et notamment en Italie, puisque l'Italie était quand même, à cette époque-là, un ferment de renouveau religieux et tout. Pensons que deux siècles auparavant, il y avait eu François d'Assise qui avait été là, il y avait aussi tous les dominicains, enfin, il y avait tout un remue-ménage qui s'était fait dans l'église, et tous ces mouvements-là ont été bien sûr connus en Suisse et partout. Quand il naîtra, Nicolas de Flux, en 1417, c'est la fin du grand schisme d'Occident. C'était une catastrophe. C'était en 1417, donc, que Nicolas de Flux est né. Le grand schisme a commencé en 1378, déjà bien avant. Les papes sont partis à Avignon parce qu'ils étaient complètement pris sous la tutelle du roi de France. Ils ont quitté Rome, le roi de France les a fait venir à Avignon. Il les avait vraiment à son service, comme les papes avaient aussi une certaine puissance politique et économique. Ils sont revenus à Rome en 1377, après Avignon. C'était Grégoire XI qui était recherché par Catherine de Sienne. Vous savez, Catherine de Sienne avait eu des révélations du Christ, puis elle avait dit, écoute, le pape là-bas, c'est pas possible, fallait le rechercher. Alors Catherine de Sienne était partie rechercher le pape, l'avait secoué assez sévèrement, en disant que le Christ voulait qu'il revienne à Rome. Et là, il est revenu. Brigitte de Suède aussi avait joué un rôle important. Mais en revenant à Rome, ce qui s'est passé, c'est qu'il est décédé très vite après. Et alors, c'était la guerre, parce que immédiatement, le roi de France a voulu faire élire un pape par ses propres cardinaux. Et les cardinaux qui étaient à Rome ont élu un pape. Il y a eu deux papes à ce moment-là, qui étaient élus, un à Avignon, élu, ce qui était financé par le roi de France en quelque sorte, qui était en fait un antipape, puisque l'Église le reconnaît comme ça. Et puis le pape élu à Rome, Urbain VI, d'autant plus que l'élection s'est faite très rapidement à Rome même, puisque la foule de Rome en avait marre d'avoir l'évêque de Rome qui se trouve en France. Il y a eu des émeutes violentes à Rome pour avoir un pape italien. Et voilà qu'il y avait deux papes. Donc Urbain VI à Rome, Clément VII, qui était Robert de Genève en fait, un Genevois, qui était nommé à Avignon. Catherine de Sienne à ce moment-là s'est fâchée contre les cardinaux qui ont trahi Urbain VI, bien sûr. Les deux branches des papes ont eu une succession, une lignée. Il s'est trouvé à un moment donné, de manière assez tragique, que certains saints, dont saint Vincent Ferrier, soutenaient le successeur de Clément VII, du pape d'Avignon, qui s'appelait à l'époque Benoît XIII, que Catherine de Sienne et les autres saints soutenaient le pape de Rome. Quand il y avait des tensions comme ça, même les saints étaient aveuglés, tellement la situation était confuse, peut-être pas toujours tous à la hauteur. Les ordres religieux eux-mêmes étaient complètement divisés, il y avait deux supérieurs dans les ordres religieux. En 1409, on a voulu essayer de mettre un petit peu de paix là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Un concile à Pise. On a élu l'archevêque de Milan, qui était pape sous le nom de Jean XXIII. C'était la catastrophe, d'abord la nullité totale, il a très vite remis sa démission. En fait, c'est le concile de Constance en 1417 qui a élu Martin V comme pape, après avoir déposé les trois autres papes. La lignée a pu reprendre de manière un peu plus sérieuse, mais avec des catastrophes qui se sont retrouvées quelques siècles plus tard, à la fin du XVe siècle, c'est de nouveau catastrophique. Donc on voit vraiment une période de troubles et de déchirures dans l'Église violente. Et voilà que Nicolas de Flux naît au cœur de ce contexte, au cœur de cette crise d'Église, en quelque sorte. Il vient d'une famille lui-même très ancienne, qui depuis 4 siècles était déjà connu dans la région. Donc une famille qui avait pas mal de terres, c'était propriétaire terrien du coin, c'est un petit village, Von Flus, qui veut dire le rocher, Flus veut dire le rocher. Voilà que le petit Klaus Lee naît, l'aîné de cette famille de Flus, qui est une famille très pieuse et connue surtout, non pas tant pour ses richesses, puisque les propriétés qu'elle avait étaient assez importantes, ne permettant pas des revenus extraordinaires, mais surtout pour la qualité de sa piété.